RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC historique, Joël Dago, série, la coach de vie, Bruno Poncet, le cheminot, et Antoine Dier, ce consultant juridique. Avant d'accueillir notre invité, tout à l'heure au 32-16, dans un quart d'heure, vous allez pouvoir discuter avec nous de ce qui se passe en Corrèze. La mairie de Malemort, plutôt que d'installer un radar sur, ou demander l'installation d'un radar sur une route dangereuse, ils ont mis un faux radar. Et c'est dissuasif vis-à-vis des automobilistes. Alors, un faux radar et des faux panneaux de signalisation, est-ce que c'est mieux que les vrais radars? 32-16 pour en discuter tout à l'heure avec les GG, avec les granules. C'est l'astuce anti-excès de vitesse. En attendant, donc, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Il est journaliste, éditorialiste, il a été le patron de Radio France et de France Télévisions. C'est Patrice Duhamel qui est avec nous avec ce livre « Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, les derniers mystères ». Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour.
Bonjour. Quand j'ai fini de lire votre livre, je me suis dit, Patrice, finalement, il faut mieux élire des présidents ou des présidentes jeunes et en bonne santé.
Oui.
Parce que quand même, l'histoire de la Ve République, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a été dirigé par des gens malades, qui ont souvent caché leur état de santé et qui, pour certains, étaient en incapacité de continuer à présider la France.
Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de faire ce livre, parce que 4 présidents sur 8, Macron est le 8e, 4 présidents sur 8 qui ont été, à certains moments en tout cas, et s'agissant de Pompidou et de Mitterrand, évidemment dans les 2 dernières années, c'est quand même beaucoup, dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions à 100%. Il y avait des moments de lucidité, etc., mais je l'ai vécu, je l'ai dit hélas compte tenu de mon âge, mais je l'ai vécu avec Pompidou déjà, que je connaissais assez bien, qui était d'ailleurs quelqu'un d'extraordinairement impressionnant. Je pense que ça a été un bon président. Mais quand on apprend ce que j'ai appris grâce au journal du grand professeur de médecine qui le soignait, Jean Bernard, que sa leucémie avait été diagnostiquée 7 mois avant sa candidature et 8 mois avant son élection, j'étais quand même absolument stupéfait, parce que c'est quelque chose qu'on ignorait, que
oui,
tout le monde...
Oui, vous révélez. Alors, bien sûr, on savait que Georges Pompidou était malade, et il n'a pas été au bout de son mandat, et il est mort, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que avant même de se lancer dans la course à la présidentielle, il sait qu'il est malade.
Il sait qu'il est malade.
Et pourtant, il y va.
Il sait qu'il a des troubles sanguins graves, il sait qu'il a des hémorragies, il sait qu'il a des moments de fatigue extrêmes, il sait qu'il est sous un traitement très dur de cortisone à haute dose, avec les conséquences physiques qu'on verra progressivement pendant les 5 ans de sa présidence. Et malgré ça, alors moi je porte pas de jugement, ça se passe dans la tête d'un homme qui a été 6 ans Premier ministre du général de Gaulle et qui a envie de lui succéder, mais il y a des choses à partir de là saisissantes. Par exemple, en janvier 69, donc il va y avoir le référendum dont Pompidou pense que De Gaulle va le perdre et donc partira. Il va voir le pape à Rome, il rencontre quelques journalistes et il dit, ce qui a fait scandale à l'époque, le jour où De Gaulle s'en va, moi je serai candidat. Ce qui a favorisé le non au référendum, parce que les gens étaient un peu rassurés de savoir qu'après le général, il y avait Georges Pompidou qui était là. Mmh. Et on apprend dans le livre, par le professeur, le grand professeur, c'était un immense médecin, il faut que... Les auditeurs le sachent, c'était un des grands médecins français du 20e siècle, même l'inventeur de l'hématologie à l'Académie française, enfin avec une dimension morale, académicien, poète, etc. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et il dit, ce jour-là, cette déclaration de Rome, s'il l'a faite, c'est parce que c'est l'effet de la cortisone, c'est-à-dire que une espèce d'euphorisant. Qui, en gros, ce qu'on dit maintenant, il était en roue libre, quoi.
Mmh. Oui, mais une chose que je voudrais savoir, c'est, il y a les révélations du livre, effectivement, des notes de Jean Bernard. Aucun journaliste ne le savait, parce que c'est aussi le reflet d'une époque où des journalistes savaient, mais ne disaient pas.
Oui.
Parce qu'on avait peur du pouvoir et on se disait, c'est au pouvoir de le dire, c'est pas à nous. Donc, est-ce que personne ne le savait pour Georges Pompidou?
À cette époque-là, personne ne le savait. Ces 3 médecins, puisqu'il y avait 3, il y avait le grand professeur dont on parlait, le médecin de famille, personnel, qui est devenu professeur après, qui était d'ailleurs un excellent médecin également, et le et ce qui est psychologiquement très dur, le fils de Georges Pompidou, qui venait de terminer ses études de médecine, et qui lui soignait son père à partir des instructions du professeur, quasiment au jour le jour. Alors, mais en dehors de ça, par exemple, la femme de Georges Pompidou ne le savait pas.
Il n'a pas dit à sa femme.
Édouard Balladur, qui était très très proche de Georges Pompidou, ne le savait pas. Personne ne le savait. Il y avait des instructions absolument formelles pour que ça ne se sache pas.
Alors il y avait aussi quand même, alors là on ne le savait pas, mais quand il est devenu malade et qu'on le voyait apparaître bouffi à la télévision, il souffrait le martyr visiblement à ce moment-là. Il y avait quand même des consignes données à l'ORTF. Alors l'ORTF, il faut expliquer aux plus jeunes, c'était le France Télévisions de l'époque. Hein. Enfin, c'était toutes les télés publiques et radios réunies sous une même enseigne, l'ORTF.
Il y avait moins de chaînes quand même.
Mais... Il y en avait moins, télé et radio d'État. Et donc la consigne était donnée aux cadreurs, aux monteurs, d'essayer de cacher les stigmates de la maladie.
Le jour où les Français se sont rendus compte que Georges Pompidou était vraiment très malade, c'est quand il est allé voir le président des États-Unis en pleine crise monétaire en Islande, à Reykjavik. J'étais là et j'étais un junior, hein, j'avais 26, 27 ans et je suivais les affaires économiques, financières, etc. Et on m'a fait rentrer à Paris par un avion du gouvernement, ce qui est quand même pas mal. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et j'ai été convoqué en arrivant par le patron de l'information qui m'a dit est-ce que vous savez garder un secret d'État ? Première fois qu'on me posait la question. Hein. Et la dernière d'ailleurs. Et j'ai dit, j'ai bafouillé, oui. Et on m'a dit, pas de gros plan du président. Et si vous pouvez éviter aussi dans le montage, pour ça qu'on m'avait fait revenir à Paris pour monter le reportage. Si vous pouvez éviter aussi les plans américains, il faudrait que ça soit vraiment des plans en pied. C'était un peu absurde d'ailleurs parce que les images tournées par les Américains circulaient déjà dans le monde entier. Quand on a vu Pompidou descendre de la caravelle présidentielle, j'avais à côté de moi un journaliste que je connaissais, américain de la CBS. Il m'a dit « Votre président est mourant ». Ben non, la thèse officielle, c'était « Il a des grippes à répétition ». Voilà. Donc, à partir du moment où on m'a fait rentrer pour me dire ça, j'ai su que c'était très grave. Il est vrai que je l'ai fait, c'est-à-dire il y a... Ouais. On voit qu'il est bouffi, mais il n'y a pas effectivement de gros plans. Vous avez raison. C'était les journalistes ne prenaient pas le risque. Il y avait une forme d'autocensure.
Bien sûr.
Mais c'était aussi une autre époque, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils ne se disaient pas.
Oui. On n'enquêtait pas sur la santé des présidents.
Oui, non, mais la santé, la vie privée, intime, etc. Mazarine Pinjot, il y avait pas mal de journalistes, dont mon frère Alain que vous connaissez bien et moi-même. On savait. On a su en 80, quand Mitterrand a été élu, qu'elle existait. Et bon, on n'en a pas parlé, c'était une autre époque.
Avec François Mitterrand, et là il y a eu mensonge, puisque François Mitterrand, élu président, promet de publier son bulletin de santé, de jouer à la transparence. Or, c'est quelques semaines, voire quelques mois après son élection.
Il est élu en mai, c'est en novembre, voilà. Il apprend qu'il en a pour 3 mois à 2 ans.
Il a un cancer de la prostate.
Avec métastase.
Et métastase.
C'est ça qui est très grave.
Et là, métastase. Il va continuer à publier des faux bulletins de santé. Avec la complicité
il va donner comme instruction à son médecin personnel, le docteur Gubler, qui a été un médecin formidable et qui l'a vraiment très très bien soigné. C'est une des raisons pour lesquelles, alors qu'on lui disait 3 mois à 2 ans, il va tenir 14 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Ouais. Il lui a donné comme instruction formelle de faire des faux bulletins de santé. Il n'était pas question de dire la vérité. Et même quand il est opéré 11 ans plus tard, en 92, on se souvient, c'était au moment du référendum sur Maastricht, juste quelques... Une dizaine de jours plus tôt, il est opéré d'un cancer de la prostate, mais on ne dit pas la vérité. C'est-à-dire, le plus grave, c'était le cancer de la prostate à son âge. C'est surtout les métastases qui faisaient qu'il avait des malaises, il y en avait eu devant les caméras de télévision, etc. À ce moment-là, il y a ce fameux face-à-face avec Philippe Séguin à la Sorbonne. Oui. Les gens qui s'intéressent à la politique s'en souviennent. Mais, déjà, là, il a fait l'effort maximum, mais à partir de là, il est
mais justement, quoi. Parce que vous disiez, des journalistes savaient pour la double vie pour Mazarine et ne disaient rien, mais ils savaient aussi pour la maladie.
Alors, ils l'ont su progressivement. En 80,
il y avait une espèce d'omerta. On ne disait rien.
Il y a eu une omerta, et même jusqu'au bout. Alors, en 93, heureusement qu'il y avait d'ailleurs la cohabitation avec Balladur qui a un peu tenu parce que lui, il pouvait plus y être.
Oui, mais c'est peut-être.
Vous vous souvenez sûrement de la fameuse, fameux détournement d'avion, Alger-Paris, par les islamistes algériens. C'est le Premier ministre tout seul qui a géré ça. Le Mitterrand, il était sur une petite douleur à Venise. Il n'y a pas eu un seul contact entre le Premier ministre.
Oui, mais Patrice Duhamel, à cette époque-là. Moi, je trouve plus grave que l'omerta. Bon, les gens, ils se disent pas, mais c'est qu'on a donc un président qui n'est plus en capacité
si les journalistes disaient, ça aurait changé les choses.
Oui, mais il n'est plus en état à 100%.
Lui, il le sait. Donc lui, il sait qu'il n'est plus en capacité. Pourquoi il ne s'arrête pas? Pourquoi il ne met pas fin à sa mission en disant « je suis trop malade ». En plus, il s'inflige un calvaire parce qu'il est obligé quand même de montrer bonne figure. Et pourquoi lui-même ne décide pas de renoncer à sa mission?
C'est la question que je pose dans la conclusion. Dans le livre, je présente les faits tels qu'on les connaît, tels que j'ai les révélations que j'ai apprises grâce pour Pompidou au journal, quasiment pas jour par jour, mais semaine par semaine. Et c'est vraiment glaçant cette lecture parce que il y a des moments où il délire, il y a des moments où il est dans une crise de confusion mentale. Il est président de la République, je raconte dans le livre, et il se couche tout habillé. Il y a des moments où il peut plus exercer ses fonctions. Il y a d'autres moments de grande lucidité. Mais les deux dernières années, je termine le livre en disant ça. Et Pompidou et Mitterrand n'avaient ni la force de présider ni le courage de démissionner. Parce que vous avez raison, mais il faut un sacré courage, hein. Oui. Pour aller à la télévision en disant « je suis trop malade, je démissionne ».
Alors, on y va. Joël Dagosséry, question de Bruno Poncet et d'Antoine Dier. Joël, Bruno et Antoine. Joël.
Votre livre, en fait, j'aurais aimé me dire que c'était le livre d'une époque. Voilà, d'une époque révolue dans laquelle les personnes n'osaient pas, comme vous dites.
Ça a continué avec Chirac. Hein,
voilà, exactement. Oui, ça a continué. Mais vous voyez, quand je regarde aujourd'hui, j'ai vu dernièrement au municipal M. Santini se présenter malade, mais vraiment malade.
Il est sorti de l'hôpital pour quelque chose.
Oui, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher ou comme vous aviez les consignes en disant il faut pas faire de gros plans, des choses comme ça. En plus, avec les réseaux, c'est impossible aujourd'hui. Et ce monsieur, il a été réélu alors qu'on voit bien que physiquement, il en a incapacité de fonctionner normalement, si je puis dire.
Mais les électeurs le savaient.
Exactement. Alors c'est pour ça. Ma question c'est celle-là. C'est que ça va plus loin en fait qu'une omerta journalistique et politique. On est quelque part dans une complaisance. Ça fait partie de notre culture. Et je me demande si quelque part est-ce que finalement on s'est sorti de la monarchie. Parce que vraiment, je crois que et les hommes politiques peut-être sont comme des rois. C'est-à-dire c'est jusqu'à la mort, si possible. C'est-à-dire tant qu'on les élit, c'est bon, on y va même si je suis malade, etc. Jusqu'à la mort. Et puis nous en tant que citoyens. Je veux dire, c'est pas une donnée chez nous qui est prise en compte réellement en termes de compétences et de capacité à diriger, que ce soit une municipalité ou un pays. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une monarchie finalement?
Alors, d'abord, vous avez un peu raison parce que l'expression en général, on dit que le président de la cinquième, c'est un monarque républicain. Donc, ça rejoint ce que vous dites. On peut pas comparer une mairie, même ici Limoulineaux est une grande ville, mais pas la présidence de la République. Ce que je trouve insupportable, c'est que quand on additionne la période de Pompidou, de Mitterrand et les deux dernières années de Chirac, ça fait 20 ans de mensonges d'État. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. On va fêter les 70 ans dans 2 ans de la Ve République, et sur 70 ans, on aura eu 20 ans de mensonges d'État avec des présidents qui ne pouvaient pas exercer leurs fonctions normalement.
Jacques Chirac, il faut rappeler.
Après son AVC.
Il fait un AVC, quoi, en 2005. Et donc, il lui reste 2 ans de mandat. Et vous dites dans le livre, ces 2 ans, il n'était plus vraiment en capacité. Pourtant, là aussi, on l'a caché, on a dit le contraire, en disant tout va bien. Il est sorti de l'hôpital, je me souviens toujours de cette image où il sort de l'hôpital debout, c'était le Val-de-Grâce, comme si de rien n'était.
Entouré des médecins.
Il dit, je suis content, je vais enfin aller pouvoir bien déjeuner à l'Élysée, etc. Oui. Il avait maigri, mais simplement, par exemple, aujourd'hui, ça me paraîtrait impossible, c'est ça le sujet. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'il a été hospitalisé après son AVC un vendredi soir. Personne n'a rien su avant le samedi en fin de matinée. Ni le Premier ministre, ni le Conseil constitutionnel, personne ne le savait. En dehors des médecins et de la famille.
Aujourd'hui, ça serait plus possible.
Ah non, c'est impossible, ça. Et pour reprendre ce que vous disiez, je pense qu'aujourd'hui, les manifestations physiques comme celles qu'on a vues à la fois avec Pompidou et Mitterrand, où on voyait tous les deux qu'ils étaient quand même totalement épuisés, etc. Ça, physiquement, si ça se voit, c'est impossible de garder le secret. Et les chaînes d'information parleraient de ça en permanence. Au lieu d'avoir les généraux comme en ce moment, on aurait les médecins autour de la table qui diraient mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a rien de prévu dans la Constitution de faisable.
Alors, dans un instant, question de Bruno Poncet, d'Antoine Diers, Patrice Duhamel. Restez avec nous, Le Crépuscule des Dieux et les maladies des présidents, les derniers mystères. Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Et puis, à un moment, on va un peu sortir quand même des hôpitaux, des présidents, parce que vous avez été patron de France Télévisions. Le rapport à l'oncle, la commission à l'oncle, ça vous dit quelque chose, Patrice?
Oui, oui, j'ai été auditionné, d'ailleurs.
J'imagine bien. Donc, voilà. Et on en discutera avec vous. Restez avec les grandes gueules. Il est 11h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avec Patrice Duhamel dans Les Grandes Gueules aujourd'hui, Le Crépuscule des Dieux, les maladies des présidents, dernier mystère, le livre est aux éditions de l'Observatoire. Question, Bruno Poncet et Antoine Diers. Bruno.
Moi j'ai vécu les années Mitterrand, je suis en 72, bon je suis né sous Pompidou, mais j'avais 2 ans, mais j'ai connu les années Mitterrand et on avait vu cette son altération physique au fur et à mesure. Et je me rappelle surtout moi, les mensonges de son médecin qui après avait fait un livre en expliquant on m'a dit de dire des trucs et voilà.
Et le livre a été interdit.
Ouais, ouais. Oui. Et en plus, ce qui était dingue, c'est que Mitterrand sort en mai 95, il meurt en janvier 96, ce qui fait qu'en fait, il était vraiment tenu à bout de bras. Hein. Moi, ce que je trouve un peu impressionnant dans votre livre, moi, c'est que je savais pas qu'il était malade dès 81. Et je me dis, ça veut dire qu'en fait, il arrive au pouvoir, on lui dit, t'as 2 ans à vivre. Est-ce que ça peut pas influencer les décisions qu'il prend? Parce qu'en fait, derrière, vous vous demandez combien de temps vous êtes là, donc peut-être que les 2 premières années, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il a fait des réformes hyper importantes tout de suite. Est-ce qu'il a pas fait un truc à bloc et après en se disant, de toute façon, je suis plus là après, je vais laisser ma trace en faisant, en fait, ça change quand même le psyché de savoir qu'on est peut-être condamné à peu de temps.
Alors ça, je peux pas vous répondre, je suis pas dans sa tête et dans son entourage. J'en parlais avec Hubert Védrine, qui était un de ses très proches, qui était à l'Élysée dès ce moment-là. Personne ne le savait. Et il démentait formellement, et le médecin dont vous parlez, il a fait ce livre, qui est un livre passionnant d'ailleurs, mais il avait une instruction formelle de ne absolument rien dire. Mais il s'occupait du président tous les jours, les piqûres, les transfusions, etc., etc. C'était vraiment, il y avait toute une espèce de mini-hôpital de campagne qui suivait François Mitterrand à partir de novembre 81, et ça, c'était tellement bien fait que ça ne se voyait quasiment pas. Il faisait énormément de voyages à l'étranger et mais les journalistes ne voyaient pas.
Nicolas Sarkozy a eu un malaise aussi.
Oui.
Est-ce qu'on a tout su de son malaise?
Bah, il avait malaise vagal. C'est oui, il avait couru dans le parc de Versailles. Ouais. Avec 40 degrés au soleil, mais il y avait eu des témoins, donc voilà. Non, il a eu aussi un problème à la gorge.
Oui.
Alors qu'il devait partir au Maroc pour un voyage officiel et ça ne s'est pas su.
C'était quoi le problème à la gorge?
Il avait il s'est fait opérer d'un phlegmon au Val-de-Grâce et il souffrait énormément, mais ça a duré 3 jours. C'est pas de même nature.
Antoine Diers.
La lecture du livre et nos discussions nous laissent tous à penser logiquement qu'il faudrait aller vers une publication des états de santé, des présidents, la transparence. Vous réfléchissez même au dispositif constitutionnel pour sortir un président qui serait malade. Et en fait, moi, je pense que c'est une erreur d'aller sur ce terrain-là. C'est-à-dire que la santé des présidents, je comprends qu'ils la cachent, parce que sinon ça deviendrait un outil politique de leurs adversaires pour les affaiblir, pour dire il peut pas avoir pris cette décision, il l'a pris parce qu'il était malade, comme tu viens de le dire, Bruno.
Trump a beaucoup utilisé les faiblesses de Joe Biden.
Voilà. Et donc c'est en réalité. Je suis très partagé et je suis fasciné par cette époque de l'ORTF qu'on évoquait où en fait tout le monde défend, protège la figure du chef. Je sais pas s'il faut le dénoncer ou s'il faut le saluer. Je suis très troublé.
Mais en réalité, là où ce que vous dites est vraiment intéressant, c'est que je vois les réactions des lectrices et des lecteurs. Il y a deux lectures. Il y a une lecture ces hommes ont souffert le martyr, mais ils ont tenu, ils ont été courageux face à la maladie, etc. Donc ce qui s'est passé finalement, c'est pas aussi dramatique que ça. Du point de vue du citoyen, et puis il y a la lecture, ils sont pas en mesure d'exercer leurs fonctions totalement. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que le président, il est chef des armées, c'est le seul qui a le doigt sur le
bouton nucléaire,
le feu nucléaire. Bon, voilà.
Donc c'est pas un malade comme les autres.
Moi, je pars du principe que la santé d'un président de la République à partir du moment où elle a des effets graves sur le comportement, sur la psychologie.
Là, est-ce qu'on fait un check-up à chaque pilote d'avion?
Il y a un moment où les capacités intellectuelles sont altérées.
Bah oui.
Mais en France, on n'a pas de procédure d'impeachment comme aux États-Unis.
Alors, il y a dans l'article qui concerne l'élection du président, il est dit qu'en cas d'empêchement, il faut que le gouvernement saisisse le Conseil constitutionnel. Jamais un premier ministre n'ira saisir le Conseil constitutionnel.
C'est quand même trop lourd.
Il aurait fallu que Balladur aille dire au Conseil constitutionnel François Mitterrand n'est plus en état, alors que lui-même était candidat.
Et ça l'arrangeait peut-être Édouard Balladur, parce que finalement c'était un premier ministre tout puissant qui n'était pas gêné par un président malade.
Je disais
c'est un peu trop court. Enfin, ça fait très bureaucratie ce truc d'aller saisir le Conseil constitutionnel.
J'aimerais qu'on change là.
Bah oui, et en fait il faut avoir une procédure assez claire, parce que les États-Unis ils te disent voilà, si le président est empêché, c'est le vice-président tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est clair, c'est tracé, il y a une procédure.
En France aussi, c'est le président du Sénat qui fait
l'intérim.
Mais
c'est pas en cas de maladie.
Je peux certifier qu'il est empêché. Le médecin d'à côté, il dirait bah non, d'après moi, il a encore toutes ses capacités.
Quand le grand cancérologue de l'époque, qui opéra Mitterrand deux fois, diagnostique un cancer de la prostate avec des métastases un peu partout. C'est quand même une sommité, ça aurait pu être validé.
Oui, est-ce que ça l'empêche? Oui, mais il a tenu 14 ans.
Est-ce que ça l'empêche?
Oui, absolument.
Parce que peut-être qu'à l'époque.
C'est la limite de. Voilà.
Prenons le scénario de François Mitterrand. Si effectivement, à l'époque, le médecin avait dit, bah non, François Mitterrand, il n'y en a que pour quelques mois, donc il faut que ça s'arrête. Bah finalement, il a tenu 14 ans, il a fait deux mandats, il a été réélu.
Il a été formidablement bien soigné par ce cancérologue et par Claude Gubler. Et puis il y a aussi, alors là on rentre dans les mystères de la psychologie, etc. Le pouvoir qui,
bien sûr,
voilà, qui veulent. Ouais. Mitterrand, il avait une obsession, c'était son duel singulier avec le général de Gaulle vis-à-vis de l'histoire. Il voulait faire deux mandats jusqu'au bout, alors que de Gaulle avait été interrompu par sa défaite et donc sa démission avant la fin de son second mandat.
Mais les deux dernières années de Jacques Chirac, vraiment, il n'était.
Il est en pente douce.
Voilà, il décline tout doucement.
Il décline tout doucement. C'est la bagarre, vous vous souvenez, entre Villepin et Sarkozy. Il a du mal à arbitrer entre les deux. Il n'est plus à 100%.
Mais il le sait qu'il n'est plus à 100%.
Oui, ça, il le sait.
Il a l'inconscience.
Mais le moment où
franchement, tous ceux sur le moment, personne ne disait rien. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages, même les gens qui l'aimaient énormément, etc., disent il y a eu le Chirac d'avant, et puis il y a le Chirac après l'AVC. Ça, c'est clair.
Mais l'AVC a lieu quand ?
Il a lieu en septembre 2005.
Voilà. Mais on se souvient du usé, vieilli, fatigué de Lionel Jospin. C'est pour ça que je dis c'était avant. Et à l'époque, lorsque Lionel Jospin le dit.
Ça lui est reproché.
Eh ben, ça lui est reproché et ça ne lui sert pas politiquement.
Ça va servir Chirac.
C'est ça. Donc on voit bien que le sujet de la santé des responsables politiques, même vis-à-vis de l'opinion, c'est attention, quoi. Ça peut faire basculer d'un côté ou de l'autre.
Parce que là, c'était son adversaire. Je crois que c'était entre les. Je me souviens plus, mais je crois que c'était entre les. Non, je suis pas sûr. C'était peut-être avant le premier tour. Bah oui, forcément, puisque Jospin a été éliminé en 2002, évidemment. Mais
auprès des Français, on touche pas à la santé.
Voilà. Quoi. Ouais. Puis les Français aimaient bien Chirac. Il y avait un attachement un peu personnel. C'était. Il avait un contact facile. Les gens l'aimaient bien.
Alors, puisqu'on parle, c'est les Français qui choisissent. Remettons-nous-en à la démocratie.
Aujourd'hui, avec la crise qu'on a. Vous voyez un président malade qui aurait du mal à parcourir le monde.
Il serait peut-être plus détaché que les autres.
On s'interroge sur la santé de Donald Trump, sur son état réel. Oui.
Bon, on a vu Biden déjà.
Ouais. Et Donald Trump, on le voit s'endormir un peu dans les réunions là maintenant.
Puisqu'on parle de la vie privée, parce que ça fait partie aussi de la vie privée de ceux qui nous gouvernent, un journaliste nous livre une explication de la fameuse gifle de Brigitte Macron sur son mari à l'arrivée à l'aéroport d'Hanoï au Vietnam il y a un an, selon Monsieur Griff, qui sera d'ailleurs notre invité demain, Monsieur Tardif, que j'appelle Monsieur Griff, Monsieur Florian Tardif, qui sera notre invité demain dans son livre Un couple presque parfait.
La santé. Il
explique, peut-être qu'il faut que j'aille faire un check-up. Il explique en fait Brigitte est à ce moment-là vient de tomber sur un message qu'a envoyé Emmanuel Macron à l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, et donc c'est une gifle de jalousie. Donc là, on est dans la vie privée d'Emmanuel Macron, qui aurait donc une maîtresse, si j'en crois ce journaliste. Alors même s'il parle de relations platoniques, enfin suffisamment importantes pour déclencher la fureur de Brigitte Macron. Est-ce que ça, c'est intéressant de le savoir ?
Sur la vie privée, d'abord, j'ai aucun commentaire.
La gifle a été vue par le monde entier.
Oui, oui, oui. Fin de la gifle.
Voilà, la fin de la gifle.
Oui. Sur la vie privée, là, c'est un autre sujet. Sauf si ça affecte également le comportement personnel, psychologique, politique de d'un président. Mais
est-ce qu'on doit le savoir?
C'est très. Alors franchement, si on avait su les présidents. Bon, combien vous avez de temps là?
Ouais, c'est ça. Ah, justement,
la liste des maîtresses.
Non mais on a vécu Nicolas Sarkozy son divorce publiquement, ça en direct quasiment.
Il nous a fait partager d'ailleurs.
Et la double vie de François Mitterrand.
Mais ça, on l'a pas vécu.
Mais on l'a sur la fin.
On l'a su après.
On l'a su.
On l'a surtout fait l'enterrement.
Et d'ailleurs, les rumeurs sur les maîtresses de Jacques Chirac.
Et d'ailleurs, la double vie de François Mitterrand, quand le jour des obsèques, quand on a vu les deux familles, les Français, quand ils ont été interrogés, ils étaient plutôt. Ils n'ont pas critiqué ça. Ça les touchait, ça les impressionnait.
On a vécu aussi François Hollande à la une d'un magazine People sur un scooter, et ça a déclenché la séparation avec sa compagne de l'époque. Donc, est-ce que ça, on n'est pas un peu hypocrite parce que finalement ça passionne tout le monde, la vie privée des puissants, la vie amoureuse des puissants, les maîtresses des rois, etc. Est-ce qu'il faut pas tout savoir, tout dire? Ou rester un peu hypocrite.
Je pense quand même que c'est beaucoup moins grave que la santé, qui évidemment a des effets sur le comportement et sur la conduite de la nation par le président.
Alors, François Mitterrand avait quand même.
Et alors où arrête-t-on la transparence?
François Mitterrand avait mis quand même en place, avait logé sa deuxième compagne, si on doit l'appeler comme ça, dans les appartements de la République, protégés par la République. Donc ça avait quand même des conséquences publiques.
Écouter des journalistes aussi.
Il a fait écouter des journalistes pour éviter que ça se sache. Donc
ça, on s'en rappelle bien.
C'était un scandale.
Il y a un vieux réflexe au RTF là, Patrice Duhamel, avec ça.
Ça
prudent là quand même.
Non, mais moi j'ai su, et mon frère Alain, que vous connaissez bien ici, c'est lui d'ailleurs qui me l'avait dit en novembre 81, oui. Que Bazaril existait, elle allait avoir 7 ans. Et c'est vrai qu'on n'a absolument rien dit, parce qu'on considérait qu'il y a une frontière, il ne faut pas la passer. Mais je suis peut-être un peu vieux jeu. École, c'est possible.
Alors, dernière,
sur la santé.
Il nous reste 2 minutes. Charles Aloncle, le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public. Vous avez été entendu. Qu'est-ce qu'on fait du rapport à l'oncle? Est-ce qu'il faut revoir l'audiovisuel public, fusionner un certain nombre de chaînes ou pas?
Et faire des économies, parce qu'il préconise une cure d'austérité.
Patrice
Duhamel. Un milliard d'euros d'économies.
Moi, je suis pour un audiovisuel fort. Après, on peut toujours discuter des efforts à faire dans le cadre d'un... Si dans ce pays, tout le monde fait des efforts, je vois pas pourquoi... l'audiovisuel public n'en ferait pas. Mais d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Après, le milliard évoqué par Charles Aloncle sur le budget de France Télévisions, qui est de 3 milliards, c'est impossible. C'est tout ça. Moi, j'ai piloté la maison avec Patrick de Carolis pendant 5 ans. C'est totalement impossible. Ou alors, faut prendre, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Voilà. La BBC a fait la même chose, mais sur une très longue période. Sur le périmètre, on peut toujours discuter. Je suis totalement hostile à l'idée de la... Alors d'ailleurs, il ne le propose pas, de la privatisation.
Non, il n'est pas pour la privatisation totale. Voilà.
Est-ce qu'il y a trop de contrats avec les boîtes privées?
Oh, ben, bien sûr. Non mais là, il y a une incompréhension totale. Vous, tous les deux, vous montez une boîte de production. Vous allez proposer des projets aux responsables de France Télévisions. Et ils vous disent, votre projet nous intéresse, on le commande. Et pourquoi c'est France Télévisions qui ensuite irait le produire? C'est votre idée, c'est à vous de la mettre sur l'antenne. C'est comme ça que ça se passe.
Il y a des conséquences de ce rapport, parce que regardez, Nagui, il arrête son émission sur France Inter, on peut pas commencer à dire c'est pas
corrélé. Il dit qu'il n'y a aucun lien,
Et puis il y a quand même Eugénie Bastille, qui est quand même une figure de CNews, qui arrive sur France Télévisions pour remettre un peu de droite ou d'extrême droite sur cette chaîne. C'est quand même le rapport, quand même, il a quand même touché un peu au cœur France Télévisions.
Ce sur quoi je suis pas d'accord, mais j'ai, bon, l'idée n'est pas plus, mon opinion n'est pas plus intéressante que la vôtre là-dessus. Je n'aime pas le terme neutralité. Je pense que ça veut, pour les journalistes, ça n'existe. Vous n'êtes pas neutre.
Non.
Je ne suis pas neutre. Et vous pouvez être considéré comme objectif et honnête intellectuellement par un auditeur ou un téléspectateur sur un sujet le matin et pas le soir. Donc Voilà, moi je.
Ouais, mais là, on parle de pluralisme. Ce qui a été reproché au service public, c'est le manque de pluralisme, que c'est ça moi, penche trop à gauche.
On parlait de l'ORTF tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé à l'ORTF fin 69, il y avait 90% des journalistes qui étaient des gaullistes fervents, militants. Oui, mais
voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a 90% des journalistes qui sont de gauche à France Télé?
C'est la question.
Oui, ça, faudrait voir.
Hein. Vous mettez le curseur à combien?
Non, je sais pas.
Bah, tiens. Merci Patrice Duhamel d'être passé par les GG.
Merci à vous.
Le crépuscule des dieux et les maladies des présidents, dernier mystère aux éditions de l'Observatoire. Merci bien. Dans un instant, les faux radars, plus dissuasifs que les vrais, on en discute avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
On regarde quelques réactions qui sont arrivées sur Internet à propos de la santé des présidents. J'ai notamment Bill qui s'insurge et qui dit surtout pas de transparence. Moi, je n'ai pas envie de connaître la santé des présidents. Je ne connais pas la santé de mon voisin non plus. Et s'il est à la tête de l'État, c'est à lui à le faire savoir s'il le veut. Et il y a William qui s'insurge lui aussi en disant alors si on commence avec la santé et la transparence totale, il faudra aussi aller sur la vie privée. Déjà que je suis gêné par la transparence sur les patrimoines, m'écrit William. Il n'y a pas de raison de pousser le curseur encore plus loin. Merci à Patrice Duhamel, écrit Yanis Mertier, à Patrice Duhamel d'avoir levé le voile aujourd'hui sur ces mystères et ces mensonges de la République. C'était une honte d'avoir laissé les Français être gouvernés par des malades et en particulier par François Mitterrand. On voit tout le mal qu'il a fait à la France. C'est une honte. Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules à la radio et à la télé. Et si vous avez raté les grandes gueules, vous avez les podcasts à votre disposition. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Ça vous permet de retrouver l'émission dans son intégralité, puis toutes les petites discussions qu'on peut avoir pendant la pause pub aussi. Joël Dagosséry, Bruno Poncet, Antoine Diers. On a 10 minutes de discussion encore à avoir avec vous au 32-16 à propos de cette municipalité qui installe des faux radars.
Bonjour monsieur, vous avez été contrôlé à une vitesse de 81 km/h au lieu de 80. Donc ça vous fera 90 euros d'amende, 75 euros pour la vignette, 35 euros pour le klaxon, 25 euros pour le bordel dans la voiture.
Hey, franchement là t'abuses, on a plus une thune, un peu comme du vol, les radars y'en a ras-le-bol, c'est pas très sérieux, nous la faire à l'envers. Regarde un petit peu pour toi, Emmanuel.
Petite prod de notre amie Charline dans la régie des GG des Grandes Gueules à propos des radars. Alors, le faux radar, est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est abusé? Ça se passe du côté de Malemort, en Corrèze.
Oui, c'est un faux radar qui a installé le maire, alors qui ressemble effectivement à s'y méprendre avec un vrai radar et qui permet finalement de faire ralentir les automobilistes alors qu'aucun flash ne part de cette boîte qui donc ne délivre aucune contravention. Alors, est-ce que effectivement, alors visiblement c'est légal, c'est un dispositif que peut mettre en place. Est-ce que c'est pas du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça permet quand même de faire ralentir. Dans ce cas-là, il faut bien le signaler, de faire ralentir l'automobiliste quand il arrive. Et puis, si malheureusement l'automobiliste dépasse encore la vitesse, bon, il risque rien. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Le maire est content, il a fait ralentir quand même le maximum d'automobilistes et puis les automobilistes ne prennent pas de contravention. Est-ce que c'est pas ça la solution?
Moi, mettons des faux radars partout. Maintenant, tout le monde sait que c'est un faux radar.
Oui.
Alors, maintenant, c'est terminé.
Tout le monde va arriver.
Le principe de cette opération, c'est qu'il faut pas en faire de la publicité. Là, c'est un problème.
Pardon. Moi, j'adore vraiment le concept. Il y a eu toute une période de ma vie où j'adorais parcourir la France sur les nationales. Et il y a plein d'endroits où des particuliers prennent leurs poubelles et mettent des bandes noires et jaunes comme ça pour la poser au bord de la route et faire croire que c'est un radar. C'est pas nouveau. Et bah, je trouve que c'est marrant. Hein, c'est assez sympa comme idée. Et en plus, ça fonctionne. Tu fais ralentir les gens devant chez toi, ils sont pas sanctionnés. Donc, j'aime beaucoup l'astuce.
Bravo.
Ouais, j'aime beaucoup l'astuce. Et je veux saluer toute la technicité de tous ceux qui créent des petits faux radars devant chez eux partout en France. J'adore ça.
Bruno ?
Moi, il y a une quinzaine d'années, j'avais été en Italie. En Italie, tu avais des grands panneaux qui disaient radar, radar dans pas loin. Moi, je venais de France avec une voiture de location.
Contrôle
de
la Velocita.
Voilà. Et je roulais bien. Et sur autoroute, je devais être à plus de 110, 100, je sais pas combien c'est, 120 ou 130 chez eux.
210.
Ouais, ouais, ça serait pas mal de
110. C'est la patrie de Ferrari, nous.
Ouais. Et en fait, moi, je voyais les Italiens qui roulaient pas vite. Et donc, tu voyais des radars. Mais c'était des faux radars. Parce que moi, je peux dire, j'étais souvent au-dessus de la vitesse. Je me suis jamais fait gauler. Et en fait, quand tu regardais dans le rétro, tu voyais bien que c'était une boîte vide. Et ben en fait les Italiens roulaient pas si vite que ça sur autoroute. Par contre en ville ils roulent un peu sauvagement, faut dire la vérité. Mais en fait ça fait des années que ça existe et je pense que c'est quand même dissuasif parce que t'as beau le savoir et tout, mais si tu mets un panneau avant disant que ça, tu peux être contrôlé par un radar. En fait à un moment donné dans ta tête tu vas faire le lien entre radar et le panneau, tu vas dire oh, bah je vais quand même calmer les chevaux. Donc moi je pense que c'est pas mal. Et
tu
en
mets
tout
un
cas,
panneau. Le radar sera-t-il vrai ou faux?
Voilà c'est ça. Voilà. Et hop. Et puis comme si tu mets Waze, Waze il va pas dire si c'est un faux, c'est un vrai, parce que tout le monde va dire qu'il y a un radar. Donc en fait ce sera réglé.
Joël Dagosséry.
Non mais moi j'adore le nudge, donc c'est le nudge.
Alors, ça y est, on a une américaine avec nous là.
Excusez-nous.
Pardon, hein. Oui, j'ai pas le dictionnaire sur moi.
Un petit cours. Le nudge.
En fait, ce sont un peu des choses incitatives, donc qui vont influencer le comportement des personnes. Donc ça t'évite d'aller créer une loi, mettre une contravention. Donc par exemple pour vous les hommes,
voilà,
on va mettre des petites mouches à l'intérieur de la cuvette. Ça vous incite à vous voyez, à bien
droit.
Viser, exactement. Voilà. Donc en fait, ah,
des fois c'est pas un problème de mouche, c'est plutôt un problème de calibre. Hein, c'est ça. C'est
oh,
quoi
Monsieur Poncet, c'est pas possible. C'est jeudi de l'Ascension.
Tu l'as pas vu. Je pensais le calibre et de la mouche.
Il y a maintenant le bazooka. Mais qu'est-ce que c'est?
En plus, il est surtout très vantard. Alerte Arcom, dérapage.
D'ailleurs, il cherche un anaconda dans un village en France.
Je suis trompé. C'est pas le bon.
Le poney.
Donc c'est une assez bonne idée. Moi, je suis comme Antoine. Je pense que c'est super. La seule chose qui m'embête, c'est effectivement que ce soit divulgué. Du coup, bon, tant pis. Alors ils ont dit qu'ils allaient les déplacer du coup parce que les gens savent que c'est à cet endroit-là, donc ils vont devoir les déplacer.
Bah oui, maintenant tout le monde sait où il est.
Voilà, c'est ça. Mais ça coûte quand même 1000 balles.
C'est le radar mobile.
Ça fait quand même 1000 balles.
Mais si ça sauve des vies.
Oui, mais d'accord.
Ça coûte.
Mais je veux dire, si tu dois l'utiliser que deux fois ou deux semaines. Et qu'il faut toujours acheter 1000 balles pour coincer des gens, c'est un peu compliqué. Donc,
à mon avis, ça ne peut pas marcher.
C'est pas mieux de mettre carrément un.
Après, dernièrement.
À mon avis, ça ne marche pas dans une petite commune, parce qu'effectivement, une fois que tu le sais.
Bah oui, c'est ça.
Mais sur autoroute, où tu veux un peu en avoir plusieurs, certains peuvent être des faux radars. Et là, tu ne seras jamais faire la différence entre le vrai et le faux.
Jamais, parce que comme l'État a besoin d'argent, jamais il ne mettra de faux radars.
Non, mais il pourrait en mettre plus. Il pourra en mettre plus, mais là, certains des défauts.
Par contre, il y a eu des gens qui nous ont aidés dernièrement sur les radars, c'est les agriculteurs. Parce que moi, quand tu remontes de Vierzon et que tu vas sur Paris, t'as quelques radars un petit peu enveloppés.
Le radar est devenu le symbole de l'État. Et donc, quand il y a des contestations sociales, on s'en prend au radar.
Alors, social, je sais pas. Nous, à la SNCF, on n'a jamais fait ça. Nous, les cheminots, quand on en rêve, on n'a jamais.
C'est bien dommage.
On a peut-être dû, mais bon, parce que je vois bien que là, les agriculteurs, par contre, on leur a jamais demandé de leur mettre, surtout. Ils ont pas raqué, parce que j'en ai vu des flambées, moi, des radars.
J'ai vu les bottes de paille devant. Ouais.
Moi, j'ai vu les pneus. Tu empiles les pneus.
Ouais,
on n'a pas abîmé le matériel.
Ouais, c'est clair.
Mais le but des radars, c'est de faire baisser le nombre de morts sur les routes.
Tout à fait.
Donc, ça, c'est fait. Est-ce que maintenant, le but des radars, c'est de continuer de faire baisser le nombre de morts sur les routes? Ou c'est de juste sanctionner des excès de vitesse et de faire du fric? Je te dis ça, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai pris 55 km/h, sanctionné 51.
Ouais, j'ai eu la même. 45 euros.
Et tu l'as pris, donc tu. En ville.
Ouais.
D'accord, si tu veux. 55, 51. Je demande pas la clémence, mais là, tu te dis, franchement, dans une zone où tu vois, où tu passes parce que t'as mis un petit coup d'accélérateur, t'as fait deuxième, troisième, quoi, grosso modo. Et là, tu te dis, est-ce que c'est une question de mortalité ou c'est une question de pognon? Non. Là, tu vois, ce maire qui met un faux radar, là, c'est vraiment pour faire baisser l'accidentologie, il est sur une route dangereuse. Mais la plupart du temps, c'est quand même plus pour de la machine à fric, quoi.
Bien sûr, surtout que les radars. Une fois, moi, je me suis pris un par un radar de chantier. Il faut les connaître, les radars de chantier. En descendant à Paris, au sud de Paris, je me suis pris un radar de chantier, 45 balles à sortir, en fait. Alors que, excuse-moi, mais t'es dans une descente, il y a un radar un peu plus loin. L'autre, il te met un radar de chantier pour te faire gauler.
Joël?
Non, je disais que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux, et en même temps, oui, prendre du fric, mais quelque part, ça fait peur aussi aux automobilistes. Enfin, censé faire peur aux automobilistes.
Oui, mais le problème, Joël, c'est que maintenant, la mode, c'est plus le radar signalé. C'était d'ailleurs,
ça qui était intéressant dans la démarche à l'époque de Jacques Chirac, Gilles Derobien, Nicolas Sarkozy, c'est les trois qui ont mis ça en place, mise à l'intérieur, mise à transport et président de la République. Et c'était justement, on vous le signale, on vous piège pas, c'est pas un piège, on vous le signale, à vous maintenant d'être responsable. Ouais. Désormais, malheureusement, la grande mode, c'est les radars embarqués, donc là, c'est pas signalé, et là, ça flash à tout va. Là, je suis effectivement dans l'idée que on s'est en train de se dire, on va piéger, le radar embarqué, c'est pour piéger les gens, et pour amener du blé, hein. C'est un impôt supplémentaire.
Mais en même temps, si tu connais tous les radars de ton trajet, que tu te mets à 130, qu'ensuite t'accélères à 200, ouais, tu ralentis clair. Après,
et ben voilà, on a Didier qui veut intervenir. Didier Delorme, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Faux radar, c'est bien ou pas ?
Mais non, c'est de la connerie encore plus.
Pourquoi ?
C'est de la connerie. Bah, le problème, c'est qu'il y a tellement de répression, on nous fout des radars un peu partout. On ne passe notre temps maintenant qu'à regarder le compteur.
Ça, c'est vrai.
On ne fait plus que ça. On ne regarde pas à droite, à gauche ce qui se passe. On ne regarde pas en face de nous. On regarde le compteur.
Ou on ça met le régulateur.
Bah, on met le régulateur, mais on ne met pas le régulateur partout. Le régulateur sur une boîte manuelle, c'est de la connerie. En général, c'est sur les boîtes automatiques. C'est ça qui marche le mieux.
Ouais.
Et on ne passe notre temps qu'à regarder le compteur. Vous ne faites que ça. Moi, je roule avec un détecteur de radar. Quand ça sonne, je fais gaffe.
C'est quoi un détecteur de...
Je ne suis pas un délinquant de la route.
C'est quoi le détecteur de radar ? C'est l'application, quoi, en fait, c'est ça ?
Non, c'est un truc que j'ai acheté aux USA.
Ah bon ?
Oui, vous trouvez ça sur Internet.
Donc, c'est illégal.
Voilà.
Ce qui est autorisé, c'est les applications avec un point GPS ?
Comment ?
Ce qui est autorisé, c'est l'application avec un point GPS où on sait qu'il y a le radar ou quelqu'un l'a signalé. Mais le matériel qui utilise les ondes du radar pour savoir qu'il est là, là, c'est illégal.
Bah, c'est illégal, mais le problème, c'est que moi, j'ai perdu une fois pour des bêtises, mais pour des bêtises, hein, pour rien d'extraordinaire, j'ai perdu 8 points.
8 points.
8 c'est quoi
l'arrêt
d'extraordinaire?
C'est le maximum.
C'est
écraser quelqu'un.
C'est
jeter un feu rouge.
3 feux rouges, quoi, c'est quoi?
Pas du tout. Là où j'habite, vous avez des feux décalés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui passe à vert, à rouge, quelques secondes avant l'autre qui est en face. Mmh. Hein? Il y avait de la police qui était là à un radar. Ils étaient en renfort de notre secteur, donc ils connaissaient pas ce radar-là. Moi, je suis passé à moi à vert. Lui, pour lui, comme il dit sur l'autre fil, je suis passé à rouge. Comme il y a un léger décalage de quelques secondes pour faciliter le passage de ceux qui sont sur les côtés. Eh ben, ils m'ont coursé, ils m'ont pris 4 points.
C'est-à-dire la poursuite a duré 20 bornes aussi.
Non, c'était en ville. Hein, je vous rappelle.
En plus, 20 bornes en ville, Didier, vous exagérez.
Non, mais c'est pas exagéré. Moi, je n'ai rien fait.
8 points, vous avez pris 8 points.
Je suis passé à vert. Enfin, j'ai rien fait d'illégal entre nous. Mais
Vous avez fait un stage pour les récupérer?
Bah, j'ai fait un stage, c'était au moment du Covid. Fait un stage qui, à la base, devait me coûter 200 balles, il m'a coûté 350, puisqu'il fallait payer un peu plus cher parce qu'on mettait moins de monde dans la salle.
Ça aussi, c'est un bon business, le stage.
Je comprends. Merci, bon Didier, business. D'avoir été avec nous. Vous avez conclu la discussion. Génial ou abusé ? Qu'est-ce que vous pensez du faux radar ? On va voir. Génial, 57%.
Ça baisse un peu,
54 là,
c'est partagé
à l'instant.
Quand même, hein.
Merci à tous, merci mes chers GG, passez une bonne journée, un bon jeudi de l'Ascension. On se retrouve demain avec Florian Tardif, l'auteur du livre Un couple presque parfait concernant le couple Macron. Il viendra s'expliquer sur cette rumeur du président, la relation platonique avec l'actrice iranienne.
Ah, c'est même pas une rumeur dans son livre.
Bonjour.
En revanche, il faudra m'expliquer c'est quoi une relation platonique.
L'esprit, tout passe par l'esprit.
Bien sûr.
Olivier Charles Magnin. Bonjour Alain. Salut les GG. Dans un instant, c'est le coup d'envoi d'Estelle Midi. On va commencer avec un paradoxe. Les prix à la pompe sont au plus haut. On n'arrête pas d'en parler. Et bison futé voit noir sur les routes. Hier c'était noir, aujourd'hui c'est rouge. Ce week-end aussi, dans le sens des retours, dimanche ce sera rouge. Il n'y a jamais autant de monde sur la route. Alors est-ce qu'il faut arrêter de se plaindre? On va oser poser la question dans un instant avec vous au 32-16. À midi et demi, on va parler de cette nouvelle matière à l'école, les jeux vidéo. L'e-sport va faire son entrée à l'école. Il y aura des horaires aménagés pour les joueurs de Fortnite ou de League of Legends. Est-ce que c'est génial ou ridicule? Là aussi, on va avoir ce débat au 32-16. Et puis, cette chute spectaculaire de la consommation de vin en France, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle d'un point de vue santé publique, mauvaise nouvelle pour la filière. Est-ce que vous buvez moins? Est-ce qu'il faut
globalement, c'est même dans le monde, hein, d'ailleurs. C'est une tendance. Hein.
Tendance mondiale, mais notamment en France. On en parlera avec vous. Et puis, Tu préfères sucré, chocolaté, tu préfères un brownie ou un cookie?
Rapide.
Ah, brownie.
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 Cookie.
Brownie.
Cookie.
Cookie.
Cookie. Aussi. Et ben bon appétit.
Eh ben 32-16 pour en discuter avec Charles Magnin. Bonne émission jusqu'à 15h.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.